mode d'emploi.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Aujourd'hui, l'émission Mode d'emploi reçoit Hélène et Aline de Toutes aux frontières pour parler des liens entre féminisme et lutte contre les frontières. Je suis Violaine, des féministes révolutionnaires, et je vais animer cette émission aux côtés de ma camarade Florence.
Bonjour.
Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Hélène et Aline, puisqu'elles sont toutes les deux à Nice. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Les féministes révolutionnaires sont un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systématiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleuses. Aujourd'hui, nous souhaitons parler des frontières et des exilés.
Et on voulait particulièrement en parler aujourd'hui parce qu'on enregistre cette émission le 18 décembre et que le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants, journée pendant laquelle il y a des grandes marches des solidarités partout en France. Donc c'est des marches contre le racisme et pour la solidarité. Tous les ans, vers cette période, il y a une manif dans plusieurs villes. Aujourd'hui, il y en a 40 dans 40 villes. Et cette année, en France, c'est aussi l'occasion du lancement d'une campagne unitaire contre le racisme et pour la solidarité. Je vous lis un mini-extrait de l'appel. L'appel dit « Nous refusons la banalisation de l'insoutenable. Nous dénonçons les politiques antimigratoires et de non-accueil des migrants et migrantes. Nous refusons l'instrumentalisation des femmes à des fins racistes. Nous réclamons vérité et justice pour les victimes de violences policières et pénitentiaires. Nous exigeons le respect des convictions et des croyances de toutes et tous. » Debout, nous redevenons dignes. Et cette manifestation d'aujourd'hui, cette date d'aujourd'hui, c'est aussi un prélude pour la grande manifestation nationale qui aura lieu au mois de mars à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme.
Et il se trouve que cette année, le 18 décembre, c'est aussi une journée d'action pour l'abolition de Frontex. Il y a tout un mouvement qui s'appelle donc Abolish Frontex qui a été lancé à cette occasion. Et on trouvait que c'était intéressant d'expliquer aussi ce que c'était Frontex et donc cette action. Donc Frontex est une agence de la Commission européenne et est actuellement une actrice clé dans la mise en pratique des politiques frontalières de l'Union européenne. Elle s'est rendue responsable de violations systématiques des droits humains par le biais de ses opérations de déploiement et les refoulements, son implication dans les expulsions, sa coopération avec les pays tiers et son rôle dans le renforcement de la sécurité des frontières des États membres de l'UE. Depuis 1993, la politique militarisée de la forteresse Europe est responsable de la mort aux frontières de plus de 40 555 personnes. Frontex est donc une agence qui est devenue l'une des plus grandes et puissantes de l'Union européenne. En un peu plus de 15 ans, le budget qui lui est alloué en 2005 par la Commission européenne a gonflé de plus de 7 560% pour atteindre 544 millions d'euros en 2021. Frontex recrute une armée de gardes-frontières pouvant posséder et utiliser des armes à feu et prévoit de disposer de 10 000 gardes d'ici 2027. L'agence est désormais autorisée à acheter son propre équipement tel que des navires, des hélicoptères et des drones au profit de sociétés d'armement, de sécurité et de surveillance, entreprises ayant exercé leur influence tout au long de l'élaboration des politiques frontalières et de défense de l'UE grâce au lobbying. Les revendications de cette campagne sont donc d'abolir Frontex, de régulariser les personnes en migration, d'arrêter toutes les expulsions, de mettre fin à la détention, d'arrêter la militarisation des frontières et le complexe militaro-industriel qui va avec, d'arrêter la surveillance des personnes en déplacement, de renforcer la solidarité, de mettre un terme au rôle de l'UE qui pousse les gens à se déplacer, la liberté de circulation pour toutes et tous, et stop au régime frontalier de l'Union européenne. Nous enregistrons donc cette émission le 18 décembre. C'est trop tard pour... C'est donc trop tard... Pour participer à ça, puisque ce sera diffusé le 24 décembre. Pardon, je me suis perdue. Pour appeler à participer à ces actions, c'est trop tard. Mais c'est trop tôt aussi pour dire quelques mots sur comment elles se sont passées. Par contre, c'est le moment parfait pour parler des frontières et d'un point de vue féministe. Et donc, nous avons deux invités pour ça. Hélène et Aline de Toutes aux frontières, le collectif qui a notamment été à l'initiative de la manifestation féministe contre les frontières du 5 juin à Nice. Donc, rebonjour, Hélène et Aline. On vous laisse vous présenter rapidement si vous pouvez, soit vous, soit le collectif, soit les deux, comme vous le souhaitez.
Moi je suis Hélène, je suis militante à Nice et j'ai participé à l'organisation de Toutes aux frontières.
Moi je suis Aline, ouais, j'ai participé aussi à l'organisation de Toutes aux frontières et fait partie d'un collectif pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers à Nice. Et on a encore le temps d'appeler pour la manifestation de cet après-midi à Nice. Donc c'est pour ça que nous, on sera en ligne jusqu'à 13h50 pour être à 14h à la manifestation qui est en lien avec tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Abolish Frontex et la marge de solidarité.
Ok, super. Nous aussi, on enchaîne sur la manif. Mais comme on disait, cette émission, peut-être que ce n'était pas clair, elle va être diffusée le 24 décembre pour la première fois, donc malheureusement pour l'appel. Mais ce n'est pas grave. On en parlera plus tard, peut-être, de comment ça s'est passé.
Et on appelle déjà pour les prochaines.
Voilà, tout à fait.
Oui. Voilà. Alors, je peux faire un petit rappel de ce qui s'est passé lors de la manifestation de Toutes aux frontières.
Si ça te va, on en parle plus tard. On s'est bien prévu d'aborder ça, mais on a...
Mais on a d'abord une question brûlante à vous poser.
Exactement.
La question qui nous brûle toutes les lèvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le lien entre féminisme et frontières? Et pourquoi la question des frontières est une question éminemment féministe?
Alors, en fait, la question des frontières, pour nous... c'était une question féministe parce que ce qui se passe aux frontières pour les femmes, c'est dramatique en fait. Et la question en fait, nous, à Toutes aux frontières, nous notre but c'était de rendre visibles les femmes et les personnes LGBTQI+ qui étaient inscrites dans des parcours migratoires. Parce que justement, alors qu'elles sont très nombreuses, en fait, elles sont complètement invisibilisées. Voilà, donc en fait, Toutes aux frontières, c'était ça. Et le lien, les femmes, en fait, qui sont inscrites dans des parcours migratoires, en fait, elles le sont parfois parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles subissent des violences qui sont liées à leur genre. Et après, dans leur parcours migratoire, en fait, parce que, en fait, elles sont femmes, elles subissent plus de violences. Voilà.
Parce que statistiquement, elles représentent plus de la moitié des personnes en migration et où la mortalité sur les routes migratoires des femmes est de... Alors selon les études telles que celle de Camille Schmoll, qui est une géographe qui a beaucoup travaillé sur la question des femmes migrantes invisibilisées, elle serait victime d'une mortalité de plus de 15 à 20% supérieure à celle des hommes. Et les violences sexistes et sexuelles dont elles sont victimes sont à la fois dans les pays d'origine, surtout tout au long de la route migratoire, et ainsi que dans les pays d'arrivée.
Ok, merci, c'est hyper intéressant pour nous. Est-ce qu'on peut dire que la frontière en elle-même, c'est déjà une institution patriarcale ?
Oui, je pense qu'on peut on peut tout à fait l'affirmer de par les stratégies mises en place au niveau des frontières avec la militarisation grandissante, ce dont vous parliez tout à l'heure avec l'explosion des dépenses et des... pour l'armement de Frontex et que les femmes qui sont dans les parcours migratoires avec les passages de frontières qui se définissent par une violence systémique et structurelle, c'est souvent dans des cadres militarisés et avec des agissements souvent d'hommes blancs. Et où ce sont des constructions patriarcales qui multiplient les oppressions.
Ok, merci beaucoup. On vous propose juste d'écouter une petite chanson de Sarah Ebé qui s'appelle Akab et qui nous paraissait bien correspondre à ce dont on parle. On vous retrouve tout de suite.
Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría.
c'était ACAP de Sarah Hébé. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires et Hélène et Aline de Toutes aux Frontières. On souhaite revenir avec vous sur ce que vous disiez sur les parcours migratoires, un peu creuser ça, et notamment sur la différence entre le parcours migratoire d'une femme et celui d'un homme. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments là-dessus ?
Alors déjà dès le départ sur les routes migratoires, le fait que les raisons puissent être différentes et que souvent la migration pour les femmes peuvent être aussi c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais aussi un signe d'émancipation parfois pour fuir des violences à la fois sexistes et sexuelles dont elles peuvent être victimes. Et de pouvoir y échapper. Et que les facteurs d'oppression peuvent être beaucoup plus nombreux et les pousser sur les routes de manière plus insécure et plus urgente. Ensuite, tout au long des routes migratoires, de par l'institutionnalisation des frontières, l'oppression liée aux frontières, et ce qui implique de demander l'abolition de ces frontières, c'est qu'elles sont d'autant plus vulnérables aux questions de violences sexuelles et d'être souvent abusées lors de beaucoup de situations sur le parcours et à la fois à l'arrivée dans le pays où elles ont l'intention de finaliser leur parcours avec l'exploitation et l'isolement dans les situations liées à la fois à au fait d'être femme, mais aussi sans papier, mais aussi d'une classe exploitée. Et ce sont des facteurs qui sont multiples et qui multiplie les vulnérabilités.
Ok.
Je voudrais rajouter en fait qu'on a souvent associé l'exil des femmes et l'entrée dans un parcours migratoire en fait à la question du regroupement familial et d'un déplacement familial, et en fait ça c'est occulter en fait toute liberté aux femmes et le fait qu'en fait elles aient dû partir et qu'elles aient choisi de partir elles-mêmes. De leur pays. On s'est aperçu qu'en fait il y avait beaucoup de femmes en fait qui décidaient elles de partir et que c'était pas nécessairement une dynamique familiale qui en fait dépendait de l'homme. Ensuite, je voudrais ajouter qu'il y a un rapport de Médecins du Monde qui en fait estime à 58% des migrantes qui auraient subi des violences basées sur leur genre. Voilà.
Ce qui peut être aussi biaisé, enfin qui peut être aussi bien plus important que ces statistiques-là, c'est au minima 58%, dans le sens où beaucoup de violences sont invisibilisées, avec toutes les intimidations et l'impossibilité de les dénoncer pour les femmes qui en sont victimes.
Ok, merci. Vous disiez qu'elles sont plus de la moitié des personnes qui, en parcours migratoire, les femmes ? Et que pourtant, effectivement, on n'entend pas parler. Quand on parle de migration, on voit des hommes, on parle d'hommes. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez des choses à dire qui pourraient expliquer que, justement, on ne les voit pas ?
Alors, il y a un rapport, en fait, du Conseil de l'Europe qui a été fait par Myria Georgiou, enfin, je doute de la prononciation, qui, en fait, a étudié la couverture médiatique, la couverture par les médias, de la crise des réfugiés de 2015. Et en fait, ils se sont aperçus en étudiant cette couverture médiatique, en fait, les médias privilégiaient en fait les politiques sécuritaires, les réactions des habitants, et ne parlaient pas, en fait, ne donnaient pas le point de vue des réfugiés. Et en fait, ils ont mis aussi en évidence le fait que dans les récits des journalistes, en fait, il y avait une absence totale de récits de femmes qui étaient exilées, en fait.
Et alors, Camille Schmoll, qui est chercheuse géographe, qui disait, enfin, qui fait aussi l'hypothèse que invisibiliser les femmes, ça permet de rendre la migration comme pratiquement, enfin, exclusivement masculine, et qu'elle pourrait être avoir le but de la montrer comme plus menaçante, et du coup que ce soit aussi au service de politiques migratoires de plus en plus répressives, militarisées et à l'encontre de tous les droits des personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans papier.
Ok, c'est super intéressant. Et est-ce que vous savez si il y a aussi quelque chose de spécifique par rapport aux mineurs isolés ? Est-ce que ça se fait de la même façon pour les femmes et les hommes, cette invisibilisation et cette instrumentalisation du sexisme ?
En parallèle de mon implication dans un collectif de régularisation des sans-papiers, j'accompagne des mineurs isolés qui sont majoritairement des jeunes garçons, mais aussi quelques filles, et qui subissent aussi en permanence, quotidiennement, même en tant que mineurs isolés supposément protégés par l'aide sociale à l'enfance, des violations des droits dans le cadre de leur travail, par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être intimidés, menacés de par leur situation qui reste extrêmement précaire vu les enjeux de la régularisation administrative à leur majorité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être victimes de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leur travail avec la menace de garder le silence au risque de perdre leur emploi et de voir leur situation plus compliquée à la majorité. Du coup, en effet, les facteurs de vulnérabilité qui sont déjà extrêmement nombreux en tant que jeunes mineurs isolés garçons se multiplient en tant que jeunes mineurs isolés filles.
Ok, et est-ce que à l'arrivée en France ou dans le pays de destination, vous voyez une différence de traitement en fonction de l'origine géographique, en fonction de la classe sociale, de ces femmes ? Parce qu'on a aussi, j'imagine, des parcours extrêmement différents. C'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ont toutes les mêmes.
Alors, je pense que la classe sociale détermine dès le départ le fait de pouvoir prétendre à avoir un visa ou pas. Et de là découlent aussi toutes les oppressions liées à un parcours migratoire sans visa, et où toutes les violences se multiplient parce que intimidées, parce que menacées, parce que précarisées, parce que opprimées. C'est vrai que issues d'une classe sociale plus aisée, qui permet d'avoir une entrée régulière sur un territoire donné, ça permet d'être une protection contre toutes les violences invisibilisées, parce que condamné à l'illégalité.
Et est-ce que dans cette arrivée dans le pays de destination, ces femmes ont un accès égal entre elles et égal aux hommes dans l'accès aux soins, qui nous paraît nous aussi être une question féministe importante ?
Alors, je pense que pour l'accès aux soins, malheureusement, je pense que qu'il s'agisse des femmes ou des hommes, l'accès aux soins est extrêmement difficile à partir du moment où les personnes sont privées de papier. Et que là, on l'a vu d'autant, ça a été d'autant plus criant avec la question du Covid et des discriminations pour l'accès aux soins que ça a entraîné. Et sur où les soins peuvent être extrêmement réduits, et d'avoir un accès très très limité, même en tant que mineur isolé, ayant de fait un plein droit à la couverture santé solidaire, même avec cette couverture là, ou parfois il peut y avoir refus de soins par le corps médical. Du coup, ça pose la question de la régularisation de tout et toutes les sans-papiers pour un accès aux soins égal entre tous les citoyens et citoyennes.
Voilà. Je voudrais aussi ajouter qu'en fait, les femmes qui dans leur parcours, en fait, ont subi des violences et en fait, à cause de ces violences, en fait, elles sont susceptibles de développer certains troubles et en fait, vu qu'en fait, elles sont invisibilisées, il n'y a pas de prise en compte spécifique en fait de ce qu'elles ont subi pendant ce parcours et en fait il n'y a pas alors il y a quelques programmes européens qui en fait ont essayé de mettre en place en fait un accueil spécifique de ces femmes et des soins spécifiques notamment psychologiques en fait par rapport aux violences qu'elles ont subies pendant leur parcours.
Ok. Et c'est assez connecté, mais nous, il y a une question qui nous travaille pas mal avec Violaine. C'est la question de l'enfermement et de la détention. Oui. Et du coup, est-ce que... on sait que les traitements ne sont pas les mêmes, outre l'injustice de toute façon de la politique de détention des migrants. Mais on imagine quand même que cette question, elle se joue pas pareil pour les femmes et pour les hommes.
Oui. En effet, sur déjà l'invisibilisation des lieux d'enfermement, où par exemple, nous, en étant très proche de la frontière franco-italienne avec la PAF située à Menton, où il y a eu régulièrement des condamnations par la CEDH par rapport à l'enfermement qui ne respecte pas du tout les droits fondamentaux des personnes qui sont dans les containers à la PAF de Menton et des femmes qui ont été souvent victimes de violences aussi des femmes parfois là dans le cadre du collectif de régularisation des sans-papiers dans lequel je suis investie, il y a des cas de femmes, par exemple, qui ont été séparées de leurs enfants, des enfants qui sont alors placés à l'aide sociale à l'enfance, et elles se voient délivrer des obligations de quitter le territoire français, séparées de leurs enfants, des choses totalement illégales, et des violences qu'elles subissent parce que femmes, parce que seules, et parce que... intimidée dans ces lieux de détention et d'enfermement à l'abri de regards extérieurs.
On peut aussi noter que en fait il y avait un rapport d'Amnesty en fait qui demandait à ce que en fait dans les structures d'accueil des réfugiés en fait il y ait des sanitaires séparés, qu'il y ait des conditions qui favorisent en fait le fait que les femmes se sentent en sécurité, il y a aussi la question de la précarité menstruelle, de toutes ces questions-là, quoi, qui en fait se surajoutent en fait dans ce que vivent les femmes. Enfin, c'est difficile, quoi.
Voilà, ça va pas être évident de faire la transition, mais du coup sur toutes ces questions, vous avez organisé une immense et magnifique manifestation à Nice en juin dernier. On va prendre un peu le temps d'en parler, mais juste avant ça, on va écouter un petit son que vous avez enregistré à l'occasion et on se retrouve juste après.
Ok.
Manifestazione il 5 giugno contro le frontiere.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Toutes aux frontières.
Toutes aux frontières.
Toutes aux frontières.
Toutes aux frontières.
Toutes aux frontières, le 5 juin 2021, à Nice.
Nous, féministes, habitantes de l'Europe, de toutes les classes sociales et de tous les âges, quelles que soient nos provenances, nos choix, nos mondes, nous élevons la voix pour dire non.
Non aux politiques migratoires qui menacent les droits fondamentaux des individus.
Non
à l'accueil indigne et inconditionnel réservé aux personnes en situation de migration.
Non
aux violences faites à toutes les femmes, lesbiennes, personnes trans sur la route de l'exil.
Notre objectif, rassembler 10 000 féministes à Nice.
Pour rompre avec l'histoire patriarcale et militariste, pour la liberté de circulation sur la planète, pour une Europe sans murailles, pour créer des espaces de résistance et de solidarité dans les luttes.
mujeres trans lesbianas migración frontera.
Femmes trans lesbiennes migration frontière.
Frauen lesben transgender migration grenze.
Migration frontière. Femmes trans migration frontière. Femmes trans lesbiennes migration frontière.
Le samedi 5 juin, une marche dans Nice aura lieu à partir de 13h30. Elle sera ponctuée de danse, de batucada, de chants, de performances poétiques et de prises de parole dans plusieurs langues.
Et après, la manifestation, des lectures, des projections, des débats, des performances, etc.
Pour en savoir plus sur Toutes aux frontières, pour nous connaître, pour nous rejoindre, pour nous soutenir, pour nous contacter, rendez-vous sur notre site internet www.toutesauxfrontieresfr.wordpress.com et sur Facebook, Instagram et Twitter.
Venez avec vos cerfs-volants à Nice le 5 juin 2021 pour participer à une action féministe transnationale.
All come to the border on the 5th of June in Nice. Big feminist demonstration against the borders.
Venite a Nizza il 5 giugno 2021 per contribuire alla voce femminista transnazionale. Questo triste mondo ne ha talmente bisogno. Vieni, ti aspettiamo.
Super. Alors, est-ce que vous...
De l'air, frontières.
Alors ici, dans le studio, on était en train de chanter et de danser sur ces slogans. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi Toutes aux frontières, pourquoi la manif s'est déroulée à Nice, pourquoi c'était début juin, voilà.
Alors, l'idée en fait, de Toutes aux frontières a émergé à Genève à la fin de l'année 2019. Et lors d'une rencontre femmes migration refuge, et l'idée en fait c'était de consolider un réseau européen féministe et de consolider la solidarité entre femmes migrantes et femmes qui étaient engagées dans le réseau militant. C'était ce lien là entre l'unité et le fait d'être exilée. Et l'idée c'était de réaliser une action féministe à la frontière franco-italienne contre les politiques migratoires. Donc, c'était important. En fait, il y avait déjà un réseau en fait qui était présent entre les féministes françaises à Nice et les féministes italiennes. Et l'idée c'était vraiment de se réunir à la frontière. Voilà.
Et Nice, c'était la ville la plus proche. De la frontière,
oui, en fait,
c'était ça.
Nice, alors après, il y a Menton, mais Nice c'était la grande ville la plus proche. Et ce qui se passait à Nice, en fait, à Nice, vous avez dû entendre parler de ce qui se passe à Breil-sur-Roya avec Cédric Héroux. Il y a un grand, c'est un lieu de passage de la frontière. Donc en fait, l'idée c'était de réunir les féministes à Nice.
Et comment vous avez été reçue à Nice? Parce que c'est pas foncièrement une ville reconnue pour...
Non, c'est une ville de droite, en fait. enfin, c'est pas... Estrosi n'est pas forcément à l'extrême droite, mais c'est une ville où, en fait, les idées d'extrême droite sont assez prégnantes. Donc, en fait, la manifestation, en fait, s'est faite, en fait, malgré cet antagonisme. En fait, il y a eu des fascistes qui ont attaqué la manifestation. Mais toutes ces résistances, en fait, n'ont pas réussi à nous arrêter. Et en fait, on a été plus de 5000. On peut noter que la politique répressive, en fait, a interdit le passage de féministes italiennes qui ont été bloquées à la frontière. Donc, Toutes aux frontières, c'était une manifestation qui était transnationale et qui a regroupé des féministes en fait de pas mal de pays, notamment de Suisse et d'Italie, de France bien sûr. Il y avait des Espagnols, il y avait des Zapatistes, il y avait des Allemandes et en fait, la police a bloqué presque 500 manifestantes italiennes à la frontière qui n'ont pas pu venir manifester.
Ok. Ouais, donc même pour les manifestantes, la frontière, encore une fois, c'est une institution patriarcale, voilà. Répressive, qui empêche aussi la vie de collectif féministe de l'autre côté, quoi. Enfin, des deux côtés.
Oui. On a vu aussi des militantes qui ont été arrêtées lors de collages, qui ont été gardées à vue pendant toute la durée de la manifestation, bah, pour les empêcher de manifester, en fait. Mmh. Alors qu'il n'y avait aucun motif qui justifiait en fait une garde à vue, quoi. Enfin.
Mmh. Donc ça veut aussi dire qu'ils ont quand même un peu peur des femmes.
Oui, voilà. Mmh.
Et sur le collectif en lui-même, vous êtes organisé comment? Vous avez réfléchi à une forme d'organisation différente des collectifs que vous avez connus avant? Comment ça s'est passé, ce collectif?
L'organisation, en fait, était horizontale, était le plus horizontal possible. C'était, on va dire ça. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une exigence, en fait, qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas. Que c'était vraiment autogéré. Donc. Les collectifs, en fait, se sont réunis dans les villes, dans les pays. Et après, il y avait des rencontres en visio de tous les collectifs. Il y avait des commissions qui en fait s'emparaient d'un sujet. Par exemple, il y avait une commission sur toutes les chorales. Il y avait une commission sur tout ce qui était communication, une commission qui était sur tout ce qui était lien avec la préfecture, avec et qui après en fait rendait compte au collectif et voilà, on a vraiment essayé le plus possible, enfin c'est peut-être un vœu pieux, mais de respecter une démocratie interne, en fait.
Ok. Et vous étiez un collectif exclusivement entre femmes ou vous
non avez... Non, ce n'était pas, en fait, alors c'était pas un collectif non mixte. En fait, il y avait dès le départ, en fait, il y avait des groupes qui étaient non mixtes, mais le collectif Tout aux frontières, en fait, était pas en non mixité. Par contre, en fait, ce qui a été décidé, c'est de donner la parole aux femmes et en priorité aux femmes qui étaient dans des situations de parcours migratoire.
Ok. Ok, parce que du coup, vous parliez tout à l'heure de Cédric Héroux, qui a été quand même pas mal médiatisé, on a beaucoup entendu parler de lui, et nous, il nous semblait aussi intéressant de remarquer que ce travail de solidarité, le travail de l'autre côté de la frontière à l'arrivée, c'est aussi beaucoup en fait un travail féminin, qui est lui-même souvent invisibilisé, et donc on se demandait si vous voyez aussi dans ce travail, cette division du travail de solidarité, des différences de traitement entre les solidaires hommes et les solidaires femmes.
Alors, en fait, nous, sur la vallée de la Roya et sur les réseaux, en fait, qui viennent en aide aux migrants et migrantes, en fait, on n'a pas spécialement... alors, pour nous, ce n'est que ce que nous, on observe sur Nice et sur la vallée de la Roya. En fait, on n'a pas une prégnance particulière. Enfin, il n'y a pas de répartition, en fait, qui sont de répartition genrée, en fait, de l'aide aux migrants et migrantes, de ce qu'on peut observer, nous, ici.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et au sein de vos collectifs, tu disais que vous vouliez d'abord laisser la parole aux femmes migrantes. Est-ce que vous avez réussi un peu à éviter de reproduire les traditionnels rapports de domination, de classe, d'âge?
Alors en fait, il y a eu, enfin cette question, elle est intéressante parce qu'en fait, on était toutes conscientes, en fait, que ce type de rapport de domination, en fait, pouvait exister. Et en fait, dès le départ, en fait, on a essayé de les éviter, mais on s'est quand même rendu compte que ça avait eu lieu et ça donnait lieu, en fait, à des discussions et à des dispositifs pour, en fait, contrer ça, quoi. Enfin...
Ok. Et tu peux nous donner des exemples, un peu, de dispositifs, d'outils que vous avez réussi
à inventer ? Déjà, en fait, la situation, c'était... la situation, en fait, de domination, c'était par rapport à la question de l'âge. C'est, mm-hmm. Ce débat, en fait, avait émergé avec... des copines, en fait, qui s'étaient senties, en fait, minorées parce qu'elles étaient jeunes, parce que elles étaient étudiantes et parce qu'elles avaient l'impression que, en fait, à cause de ça, en fait, elles étaient cantonnées à certains aspects de militantisme et que certaines responsabilités, en fait, elles se sont senties pas autorisées à avoir certaines responsabilités. Alors nous, en fait, à ce moment-là, il y a eu plusieurs types d'outils qui ont été envisagés. Il y a eu la question de la communication non violente, enfin de communication non violente. Et donc ça a été envisagé. Après, en fait, on a vu les limites parce que, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est, en fait, on a essayé d'identifier en fait tous les processus en fait de domination et de les nommer en fait. C'était un travail d'identification et une verbalisation et qui a permis de que les copines prennent conscience en fait qu'elles avaient malgré elles reproduit en fait ce type de domination.
Ok, super, merci. On va parler bientôt de ce que vous faites maintenant, de ce que vous avez fait après cette manifestation, ou l'actualité aussi en cours de votre collectif. Mais juste avant, on va écouter un nouveau morceau, un morceau de Shadia Mansour. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec des féministes révolutionnaires et Hélène et Aline de Toutes aux Frontières. On poursuit donc la suite de cette manifestation du 5 juin pour savoir ce que vous avez fait après, depuis, ce qu'il y a eu des choses organisées par votre collectif et sinon quelles sont vos actualités. Voilà, qu'est-ce qui se passe en attendant l'abolition des frontières?
Voilà. Alors oui, il y a des choses qui sont passées après et dès le départ, en fait, l'idée de Toutes aux Frontières, c'était de ne pas s'arrêter. De ne pas s'arrêter à la manifestation du 5 juin, mais de faire un mouvement qui était dans la durée, un mouvement transnational qui était dans la durée. Donc le 15 août 2021, il y a une rencontre à la frontière espagnole avec une délégation du CIAPAS. Mmh. Donc il y avait des féministes espagnoles, des féministes françaises qui en fait se sont réunies à la frontière, donc ils ont fait une marche pour exiger la suppression des frontières. Et en fait, il y a une autre action qui est en cours. C'est autour de la pétition Asylum qui en fait va se finir le 11 mai 2022 à Bruxelles. Donc le 11 mai, c'est la date anniversaire de la Convention d'Istanbul. Et donc en fait, on est inscrite en fait dans un mouvement de promotion d'une pétition féministe européenne pour la reconnaissance effective des motifs d'asile propres aux femmes et propres aux personnes qui sont non conformes au modèle patriarcal.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le lien de cette pétition pour les gens qui voudraient aller la signer, regarder ce que c'est, où est-ce qu'on la trouve, cette pétition?
Vous tapez Asylum for Women, donc c'est Asylum, ça s'écrit Asylum et for Women, et vous trouvez le lien sur Internet.
Super. Et sur la rencontre avec les apatistes, que pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?
Voilà, donc en fait, sur la rencontre avec les apatistes, en fait, l'idée c'est comme à Nice, en fait, de réinvestir, en fait, que les féministes, en fait, réinvestissent la frontière, le lieu de la frontière, pour, en fait, exiger leur suppression. Donc, en fait, c'est investir géographiquement ce lieu-là, en fait, pour exiger des choses et pour rendre visible, en fait, ce qui se passe à la frontière pour les femmes. Okay. Voilà, donc en fait là il y a eu une marche, il y a eu des chants. En fait, on peut aussi noter que tout aux frontières, ça a été le moment où en fait il y a beaucoup de chorales féministes en fait qui se sont réunies, et c'est un mouvement de fond et une émergence en fait artistique avec des transmissions de chants, de luttes pour les droits des femmes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on écoutera un autre morceau de la chorale à la fin de l'émission, parce qu'on a trouvé ça, vous nous avez envoyé des liens, on a trouvé ça très chouette.
Ouais. En fait, il y a vraiment cette idée des chorales. En fait, c'était en fait tout aux frontières. C'était dans l'idée, il y avait l'idée en fait de s'éloigner en fait de la forme des manifestations habituelles pour en faire quelque chose de protéiforme dans lequel chacun et chacune en fait trouverait une modalité d'expression. Donc lors de toutes nos frontières, il y a eu des batucada, il y a eu des chants, il y a eu des conférences, il y a eu des projections, il y a eu des slogans, il y a eu la manifestation, il y a eu les cerfs-volants. Et la question et les chorales, en fait, elles ont eu une place particulière, toute particulière dans toutes nos frontières. Et comme toutes nos frontières, en fait, continuent avec d'autres actions, les chorales, en fait, continuent et se développent un peu partout en France et en Europe.
Et juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer
une transmission des chants et d'une auto-organisation et d'un espace en fait politique dans lequel en fait chacun et chacune trouverait sa voix en fait.
Et ça me fait penser, moi, à ce que disait Emma Goldman sur le fait que d'accord pour la révolution, mais s'il était impossible de danser à cette révolution, nous n'irions pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer pourquoi des cerfs-volants?
Ben, les cerfs-volants, en fait, c'était un espoir, en fait. C'était un espoir, c'était un symbole de liberté. Et en fait, pour nous, c'était important d'investir ce symbole et d'en faire quelque chose de beau et de symbolique et de concrétisé, en fait. Et en fait, pendant la manifestation, il y a eu un temps, en fait, pendant lequel les cerfs-volants qui avaient été fabriqués pendant les semaines avant toutes aux frontières et le jour même, en fait, ont pu s'envoler en fait au port de Nice.
Ok, ça a passé très vite. On arrive à la fin de notre échange. Mais si vous aviez un souhait collectif, un mot de la fin, ce serait quoi? Vous avez envie de nous dire quoi pour terminer?
Alors comme ça, en fait. Ce qu'on voudrait dire, c'est que, en fait, il faut que l'exploitation des femmes, en fait, soit visible, en fait, pour que les femmes soient émancipées. Et que, en fait, sans, en fait, que le mouvement, en fait, qu'on a mis en route, en fait, c'était un mouvement qui allait en fait être émancipateur pour les femmes en premier, mais qu'on n'oublie pas en fait que la question des frontières et la question en fait des migrants en fait est primordiale. Et en fait, abolissons les frontières et régularisons tous les sans-papiers et sans-papières.
Merci, merci, merci. Très beau mot de la fin. Nous, on avait envie aussi d'avoir encore quelques minutes pour parler de Belle Hooks. On a appris mercredi qu'elle était décédée et ça nous a rendu très tristes toutes les deux parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué. Il se trouve aussi qu'on pense qu'elle est très liée à tout ce qu'on s'est dit pendant cet échange. Et au lieu de parler d'elle un peu en vain, on va lire des extraits de ses écrits.
Merci terminer. Beaucoup.
Voilà.
Merci à vous.
Oui, merci beaucoup.
De rien, c'est avec plaisir.
Alors, Belle Hooks, c'est parti. Aux États-Unis, la plupart des gens voient le féminisme, ou plutôt le mouvement de libération des femmes, qui est une expression plus souvent utilisée, comme un mouvement dont le but est de rendre les femmes socialement égales aux hommes. À partir du moment où les hommes ne sont pas égaux entre eux au sein d'une structure de classe patriarcale, capitaliste et suprémaciste blanche, de quels hommes les femmes veulent être les égales ?
Notre volonté de prendre part à la lutte contre le racisme doit naître d'un désir sincère de sororité et d'une prise de conscience personnelle et intellectuelle que le racisme entre les femmes affaiblit le potentiel radical du féminisme.
Dans mon travail, je suis critique vis-à-vis de la notion de sécurité. Ce que je veux, c'est que les gens se sentent à l'aise face aux risques. Je suis très intéressée parce que ça signifie pour nous de nous enrichir ensemble. Une communauté qui permet le risque de connaître quelqu'un en dehors de ses propres frontières, le risque qu'est l'amour. Il n'y a pas d'amour qui ne comporte pas de risque.
Si les hommes étaient socialisés pour désirer l'amour autant qu'on leur apprend à désirer le sexe, nous assisterions à une révolution culturelle.
Et on termine vraiment, vraiment avec donc ce son de la chorale qui s'appelle la grenade.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? Suis-moi dans la ville bâtarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein là.
À la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Aline et Hélène de Toutes aux Frontières d'avoir été avec nous malgré la distance et malgré le début des vacances. Merci à Violaine d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci à toi Florence.
On se retrouve pour les prochaines émissions des Femmes Rêves à la fin du mois de janvier et toutes les fins de mois. N'hésitez pas à faire tourner cette émission, à la faire écouter à des gens qui ne sont pas d'accord, à des gens qui sont d'accord,
et à l'écouter à Noël si vous ennuyez,
si vous vous engueulez avec votre famille, ça peut être un petit moment un peu de détente. Et puis peut-être juste le mot de la fin. Abat la frontière, abat toutes les frontières, liberté de circulation et d'installation pour toutes et pour tous, et abat le patriarcat.
Mode d'emploi. Mode d'emploi. Mode d'emploi.